RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Dans quelques jours, samedi, auront lieu des marches organisées par le collectif Nous Toutes pour dire stop aux violences sexuelles et sexistes envers les femmes. On va continuer d'en discuter jusqu'à 11h en mettant en avant les actions d'associations comme l'association En Parler qu'on va vous présenter dans un instant. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation de violence, si vous avez été concerné, venez témoigner au 04 72 38 20 23. Dites-nous comment vous vous en êtes sorti, comment vous avez été accompagné, est-ce que vous avez peut-être été aidé par une association que vous voulez nous présenter également ce matin. N'hésitez pas vraiment à venir partager quelques noms d'associations avec nous à l'antenne et dites-nous aussi si vous avez été victime de harcèlement ou de violence dans votre milieu professionnel ou même témoin d'ailleurs de violence. 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr et toujours dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, on y va.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Et comme tous les jeudis dans Je pense donc j'agis, on retrouvera l'opération Jeudi Photo en toute fin d'émission avec Stéphanie Gallet qui viendra décrypter une photo choisie par le CCF des Terres Solidaires. C'est un autre regard sur le monde pour saisir les défis auxquels sont confrontées les populations à travers la planète. Ce sera donc à 10h55. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir une invitée. C'est vous, Marie-Josée Hay. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RCF. Vous êtes la coprésidente d'une association qu'on a déjà eu l'occasion de présenter sur RCF qui s'appelle En Parler, qui a été créée il y a quelques années, Marie-Josée. Alors pas par vous, mais j'imagine que vous voulez nous raconter comment elle a été créée et surtout pourquoi.
Alors l'association a été créée en 2017 par Sandrine Rousseau. L'affaire Beaupin, dont elle a été une des personnes qui a mis en avant cette histoire. Elle a écrit un livre qui s'appelle Parler, et les retours qu'elle a eus à ce moment-là, c'était nous aussi, on a du mal à trouver des espaces ou des endroits où une oreille qui permet d'exprimer vraiment tout ce qu'on a exprimé en tant que victime de violences sexuelles. Donc son idée, ça a été de construire de mettre en place des endroits en dehors de tout professionnel, que ce soit police, professionnel de santé, mais entre nous, victimes, une asso de victimes entre victimes pour parler de ce qu'on n'arrivait pas à évoquer ailleurs. C'est comme ça que l'asso a vu le jour en 2017. Les premiers groupes ont eu lieu sur Lille, Paris et Bordeaux. Et aujourd'hui, on a 10 antennes sur le territoire français. Et puis on a mis en place depuis septembre des visios nationales pour pouvoir accueillir la parole de personnes qui sont pas à proximité d'antenne. Dire aussi qu'on a commencé par accueillir les victimes, mais qu'on s'est très vite rendu compte que les proches des victimes étaient aussi dans la douleur et dans la capacité ou la difficulté de pouvoir parler. On a mis en place aussi pour les proches des groupes de parole spécifiques.
Oui. Et que vous allez nous présenter dans un instant. Alors vous avez cité l'affaire Beaupin de 2017. C'est aussi l'année de MeToo, du hashtag MeToo qui a résonné dans le monde entier, qui a permis peut-être de libérer la parole. Vous, c'est ce qui vous a aussi poussé peut-être à votre tour de vous engager pour cette cause, pour aider, pour écouter les femmes qui sont victimes de violences à la fois sexistes mais aussi sexuelles.
En fait, mon histoire personnelle fait que quand Sandrine Rousseau, je l'ai vue à la télévision, parlait de son histoire, j'ai acheté le livre, je l'ai lu et je me suis rendu compte ça faisait des années que je traînais mon histoire et que je l'affirmais pas. C'était pas ma carte d'identité, mais je me retrouvais dans une situation personnelle, professionnelle, compliquée, et je me suis dit, est-ce qu'il est peut-être pas temps de regarder les choses vraiment en face. C'est la raison pour laquelle, en fait, je me suis dit, je vais moi aussi aller poser mon histoire et la déposer auprès de d'autres oreilles. Je me suis rendu compte très vite que je ressentais la même chose que beaucoup d'autres qui se retrouvaient dans les mêmes pièces que moi, avec la même difficulté, la même culpabilité que la société nous renvoyait, la même douleur à s'intégrer dans la vie de tous les jours, parce qu'une violence sexuelle, à quelque moment qu'elle soit dans sa vie, a des répercussions qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on n'entend pas. Je me suis dit, mais en fait, je suis comme beaucoup d'entre nous, et j'ai le droit d'être à ma place comme les autres. Donc ça m'a permis de me, peut-être plus de m'affirmer, mais en tout cas de déculpabiliser, de reprendre envie de faire des choses. Et le fait de rencontrer beaucoup d'autres personnes, je voyais l'effet que ça faisait sur moi, en tout cas, et ce que ça a fait. Donc je me suis énormément investie, c'est vrai. On aide énormément de gens et c'est ça le principal.
Alors la parole s'est libérée et vous le dites très bien, mais est-ce que l'écoute est là? Alors, dans l'association, on parlait, oui.
Difficulté. Ouais.
Mais dans notre société.
L'association travaille sur deux choses. Au départ, les groupes de parole. Et puis, très vite, on s'est rendu compte au sein de ces groupes que, pour beaucoup d'entre nous, la difficulté, c'était justement cette écoute qui n'était pas soit adaptée, soit il pouvait y avoir des préjugés. Il y a beaucoup de choses qui ne permettaient pas à la victime de pouvoir s'exprimer. Donc on a commencé à aller rencontrer des professionnels, que ce soit des professionnels de santé, mais des professionnels, des policiers, des gendarmes, des avocats, des magistrats. Et on a commencé à créer une vraie relation de confiance, une vraie interaction. L'objectif étant, nous on a la parole et vous comprenez pas forcément ce qu'on a à dire, parce qu'en fait vous avez vos formations de professionnels, mais il faudrait peut-être que vous soyez formés sur ce qu'est la violence sexuelle et ce qu'est une victime de violence sexuelle. Donc en fait on travaille aujourd'hui en collaboration avec les centres régionaux psychotrauma. On fait la formation, on intervient dans la formation de professionnels de santé. On intervient sur les violences sexuelles et sur la parole des victimes de violences sexuelles. On a des collaborations avec des policiers, on a des collaborations avec des gendarmes, avec des magistrats, pour justement que ce fossé qu'il y a entre la parole et l'écoute disparaisse. Donc ce sera un travail de longue haleine, mais on se rend compte qu'il y a vraiment de très très belles choses qui sont en train de se faire, en tout cas. Sur Poitiers, cette semaine, il y a un congrès sur le psychotraumatisme, les violences sexuelles vont être évoquées. On en profite aussi pour mettre en place une exposition que l'association met en avant depuis plusieurs années, qui s'appelle « Que portais-tu ce jour-là ?». Ce sont des extraits de dépôts de plaintes de victimes à qui on a demandé, le jour où elles sont allées déposer plainte, qu'est-ce qu'elles portaient. Comme si, de fait, leur tenue était la cause de leurs agressions, ce qui n'est pas le cas. Les questions sont posées aux femmes, mais ne sont pas posées aux hommes. Donc l'objectif de cette expo, c'est de dire, mais il faudrait replacer les choses au bon endroit, en fait. Oui. Une agression sexuelle n'est pas liée à la tenue que porte la victime, mais l'agression sexuelle est liée à l'auteur de l'agression. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler, justement sur la compréhension des choses. Qui est l'auteur? Qui est l'objet? Qui est la victime?
Marie-Josée, pour revenir sur l'écoute, vous avez le sentiment, vous, que depuis 2017, l'écoute s'est professionnalisée, peut-être?
Il y a de la volonté, mais il y a énormément de travail à faire. Il faut des moyens aussi, hein. Sur le terrain, on rencontre des gens qui ont envie, mais pour qu'il y ait de l'écoute, il faut du temps. Pour qu'il y ait du temps, il faut du personnel, des moyens pour que les personnels soient là. Il y a des endroits où il y a des équipes qui se mettent en route, mais il faut vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup de victimes. On voit que les dépôts de plaintes ne vont pas bien loin. Il y a beaucoup de classements sans suite. Ce qu'il faut nous expliquer aussi, c'est le mode de fonctionnement d'une procédure, qu'on se retrouve pas frustré des classements sans suite et qu'on ait des vraies explications.
On va accueillir Brigitte.
C'est la douleur de beaucoup. Oui, pardon.
Excusez-moi, non, je vous ai coupé la parole, Marie-Josée, pardonnez-moi, mais allez-y si vous voulez finir votre phrase.
Non, ce que je voulais dire, c'était compliqué pour beaucoup de victimes de ne pas avoir en face de soi des gens qui sont non pas pas compétent, mais au moins qu'on ait des ordres de d'explication de comment doivent se faire les choses dans une procédure, dans un accompagnement, quel qu'il soit, et qu'on ne se retrouve pas frustré de se retrouver devant des murs sans explication de sans suite ou de classement sans suite, toutes ces choses-là.
Et on vous écoute au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages, vos réactions. Brigitte nous a rejoint. Bonjour Brigitte.
Bonjour RCF. Bonjour à la dame qui est à côté de vous. Voilà, en fait, je voulais vous dire que moi, j'ai été abusée sexuellement dans une cour de récréation en 4e B au collège Jean Perrin de Béziers. Il y a déjà, ça fait déjà 40 ans. Voilà, donc en fait, ça s'est fait au conseil de classe. Mon père était à la PEP, Jacques. Et donc, en fait, il y a une vraie solidarité entre les professeurs du collège et puis les psychologues aussi, les COP, les conseillers d'orientation psychologues qui sont venus sur le lieu de travail, au collège. Voilà, donc ma maman l'a su aussi. Et puis, c'est vrai que mon frère et ma soeur l'ont pas su. Voilà, et puis c'est vrai que les professeurs ont fait leur travail. En fait, j'étais pas la seule à avoir été abusée. En fait, ces élèves ont été exclus du collège. Voilà, moi j'ai manqué une semaine pour la grippe. Voilà, donc c'est moi qui suis montée au tribunal de façon élégante aussi, pour pas couler les professeurs qui n'avaient rien à voir là-dedans. En fait, c'était des éléments perturbateurs. Et donc voilà. Donc en fait, moi je m'en suis remise, j'ai fait des psychothérapies de groupe en présence de prêtres, de personnel soignant, de personnel de l'éducation nationale et de gendarmes. Voilà, la gendarmerie n'est pas loin, j'habite à côté. Voilà, j'ai travaillé dans l'éducation nationale aussi, j'y ai passé 10 ans de ma vie. Et voilà, donc j'ai fait qu'en CDD et j'espère pouvoir que mon témoignage puisse aider les autres à sortir du mutisme et surtout à rebondir, à être résilient, puisque mes mots préférés c'est résilience et merci. Et voilà, donc j'espère
Brigitte,
pouvoir partir à Rome et avoir audience au pape. J'ai eu audience au pape. Voilà, je suis allée à Rome et on a cité la Sainte Famille et la Sainte Thérèse. Voilà, moi j'ai été abusée, mais ce n'est pas dans l'Église. Et je remercie les gens intelligents et humains qui m'entourent.
Brigitte, avez-vous été accompagnée par une association?
Une association, mais c'est le Rire aux médecins surtout, voilà, donc Sparadrap, tout ça, Médecins sans frontières, Médecins du monde. Voilà, toutes ces associations, les petits indiens de Saint-Joseph du Dakota, mais surtout le Secours catholique.
Oui.
Voilà, donc...
Bien, merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. J'ai bien aimé Marie-Josée ce mot résilience qui est très important pour Brigitte.
Il est important, mais il est aussi très difficile. Il faut vraiment de l'accompagnement. Par rapport au témoignage, je tiens à souligner que l'association En Parler est une association apolitique et où il n'est pas question de religion. On vient tous en tant que victimes de violences sexuelles. Mmh. On a tous des parcours complètement différents et on est là pour évoquer ce qu'on n'arrive pas à évoquer à l'extérieur. On n'est pas une asso où on peut faire des thérapies. On est tous accompagnés plus ou moins par des thérapeutes et des professionnels de l'accompagnement. C'est un complément important parce qu'en fait on peut évoquer, comme disait cette dame, on peut le fait de pouvoir dire et de pouvoir s'exprimer, d'être écouté et surtout entendu, déjà c'est un vrai soulagement et c'est une prise en considération. Quand on dit souvent le premier mot qu'on a envie d'entendre, c'est « je te crois » en fait. On n'a pas besoin de jugement, on veut juste que notre parole soit accueillie pour ce qu'elle est. Et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit.
Je te crois.
La difficulté. Oui, je te crois. Je ne remets pas en cause ce que tu me dis. C'est important parce que pour beaucoup d'entre nous, donc la parole se libère effectivement. On accueille de plus en plus de jeunes personnes dans les groupes de parole. Avec MeToo, on a accueilli des personnes qui gardaient leur histoire depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir en disant « voilà, ça s'est passé il y a quelques semaines, ça s'est passé il y a quelques mois ». Et à ce moment-là, très vite, on se rend compte que les personnes peuvent être prises en charge. Plus vite la parole se libère, plus vite la personne qui a subi des agressions peut être prise en charge par des thérapeutes, quels qu'ils soient, par un juriste si la personne souhaite faire un dépôt de plainte. Un dépôt de plainte, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que ne pas forcer les gens à aller faire des dépôts de plainte, c'est aussi extrêmement dur, extrêmement long et revictimisant en tout cas. Donc il faut avoir conscience de ce qu'ont les conséquences de tous ces faits. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix, mais il faut être alerté sur la difficulté, la lourdeur de certaines procédures et la violence que ça peut engendrer psychologiquement et physiquement.
Et vous, vous êtes là justement pour alerter, pour apporter toutes ces informations que des femmes qui sont victimes n'ont pas forcément.
Beaucoup de personnes viennent dans les groupes pour dire, ben voilà, moi j'en suis là, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, donc il est question de résilience aussi, pour essayer de vous en sortir. Donc on se tire vers le haut, hein, surtout. Y a des petits trucs que certains font qui permettent de se dire, ah mais ça j'y avais pas pensé. Dans la vie de tous les jours, une victime de violences sexuelles, enfant, bah, c'est des difficultés à l'école, c'est des difficultés avec ses parents.
C'est ce que disait Brigitte tout à l'heure, hein, dans son témoignage. Ouais.
C'est des difficultés aussi professionnelles, c'est des difficultés sociales, c'est des difficultés de santé, des difficultés financières. Les prises en charge de soins sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Hein. Je parlais avec une jeune femme il y a pas très très longtemps du centre de la France qui avait une procédure en cours et qui estimait juste le coût de son suivi psy qui était estimé à 38 000 euros, juste le psy. Vous imaginez une jeune femme qui va... qui souhaite faire des études, qui annonce que en fait son agresseur est un membre de la famille, il arrive que ce soit la jeune femme qui soit exclue de la famille et non pas l'agresseur qui soit remis en cause dans le système familial. C'est ça aussi, c'est-à-dire prendre conscience que quand on annonce, quand on fait ce type d'annonce, on le fait pas par plaisir, c'est parce qu'on en souffre. Et qu'on a besoin de se libérer de ça et d'être accompagné pour aller bien. Cette histoire, on l'aura toute notre vie. On ira mieux, on sera accompagné, on pourra reprendre une vie à peu près normale. Mais cette histoire, elle est en nous et elle nous change à vie en tout cas.
Marie-Josée, je rappelle que vous êtes la coprésidente de l'association En Parler. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h en duplex de nos studios qui se trouvent à Poitiers d'ailleurs. Merci à toute l'équipe qui vous accueille ce matin sur place. Solène est avec nous au 04 72 38 20 23. Solène, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup pour cette émission qui met enfin des mots sur des réalités. J'espère que beaucoup de femmes pourront avoir le courage de pas se laisser faire grâce à vous. Et j'aimerais rendre hommage à 4 femmes qui m'ont permis de m'en sortir. Et également un livre, puisque grâce à ma psychiatre, j'ai pu découvrir le livre de Marie-France Irigoyenne, « Femmes sous emprise », et m'en sortir aussi grâce à ce livre. « Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple ». C'est donc un médecin psychiatre qui a accompagné pendant des années des tas de femmes et qui a pu identifier les mécanismes. Donc ça, voilà, tout le monde peut se le procurer. On peut aussi le commander.
Il est encore disponible, vous voulez dire.
Oui, oui, tout à fait. Donc extrêmement bien expliqué tous les mécanismes. Et on se rend compte, moi, au début, j'arrivais même pas à lire le livre tellement j'étais dedans et tellement j'étais en souffrance. J'aimerais dire que dans ce livre, on se rend compte de l'ampleur du problème et également des conséquences gravissimes, puisque entre 13 et 14% des femmes qui sont victimes de ça ne vont pas en survivre. Donc soit elles se donnent la mort, soit elles supportent plus leur vie, et soit leur mari, enfin, etc. Donc en fait, il y a aussi être vivante suite à ça, c'est une victoire. C'est une véritable victoire et c'est un parcours du combattant. Moi, je vais mettre 10 ans à m'en guérir et je serai jamais complètement guérie. Donc, je voudrais envoyer beaucoup d'amour aux femmes qui sont encore aujourd'hui sous emprise. Alors, j'habitais en Guyane quand ça s'est passé. En Guyane, il y a une association magnifique qui s'appelle l'Arbre Fromager, qui est pluridisciplinaire et qui aide les femmes à s'en sortir, toutes les femmes et même aussi les familles, enfants victimes de ce genre de violence. Et ils sont complètement débordés. Voilà, il y a des gens spécialistes au niveau juriste, Il y a des gens spécialistes pour faire des papiers. Les dépôts de plaintes sont souvent refusés en Guyane. Donc en fait, c'est des hommes qui considèrent que une femme qui dépose plainte, c'est une folle. Donc à partir de ce moment-là, il faut aussi regarder la réalité. Depuis 13 siècles, voire 14, 15 siècles, la femme est opprimée, violentée et rabaissée. Mmh. Si vous mettez les hommes pendant 15 siècles dans une cage, on va voir si ils sont soit mutiques, soit fous. Hein. Voilà. Donc quand on donne la parole à une femme, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Je trouve ça très important. Et donc, à part l'arbre fromager, j'ai rencontré une femme extraordinaire à la brigade de Tonnat. C'était une chef. Elle a pris ma plainte pendant 2h30 et grâce à elle, j'ai eu l'énergie de m'en sortir. Et je suis allée la voir suite à une collègue. J'étais en pleurs au travail. Et une collègue qui a vécu ça dans sa famille m'a dit « Mais Laure, il faut pas, Laure Solène, il faut pas te laisser faire. Il faut que tu puisses aller en parler avec quelqu'un. » Et parce que elle-même, son père était comme ça avec sa mère et elle l'a vécu toute son enfance.
Oui.
Voilà, donc elle-même a identifié le problème très rapidement. Grâce à elle, que je bénis aujourd'hui, j'ai pu aller voir la chef à la brigade et tous les autres qui étaient des hommes, quand ils sont venus parfois chez moi pour un complément de déclaration, à chaque fois qu'ils sortaient un mot, ça enfonçait le couteau dans la plaie et ça me déchirait et ça rappelait le problème. Donc quelqu'un qui n'est pas formé n'est pas apte à discuter avec quelqu'un qui a subi autant de violence.
Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Solène, avec notre invité, hein, absolument. Ouais.
Donc cette chef formidable a été formée pendant plus de 2 ans et m'a dit « je suis la personne référente pour ce genre de problème ». Je lui ai dit merci parce que elle arrivait à me permettre de parler en respectant et en étant vraiment, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure à l'antenne, dans l'attitude qu'il fallait pour que je puisse tout balancer sur la table. Voilà, grâce à elle, après j'ai eu des rendez-vous de médecins et je voudrais dire merci à ma kinésithérapeute qui pendant 1 an et demi, j'étais en pleurs sur la table de massage, c'est-à-dire au début elle pouvait pas me toucher tellement c'était difficile. Et par son accompagnement, j'ai pu reprendre confiance dans mon corps, dans ma réalité psychophysique. Et puis aussi, j'ai eu une art thérapeute formidable, Clarisse, qui est devenue une amie et qui par toute une approche artistique, mais aussi énergétique et spirituelle, m'a donné la force de m'en aller. Voilà.
Merci beaucoup, Solène, pour ce témoignage et d'avoir cité toutes ces femmes qui vous ont accompagnées dans cette épreuve. On entend votre émotion, votre courage aussi. Et j'espère que, voilà, ça va donner de l'espoir aux personnes qui nous écoutent, qui peut-être rencontrent ce genre de situation. Marie-Josée, je vous fais réagir parce que ça rejoint, le témoignage de Solène rejoint ce que vous disiez aussi tout à l'heure, à la fois sur la nécessité d'en parler, de pouvoir être écouté et surtout de pouvoir être écouté par des personnes qui sont formées.
Oui, c'est ce qui est important et cette dame le dit bien, c'est que il y a différentes dimensions, il y a l'émotionnel, il y a le physique et le psychologique. Pour beaucoup d'entre nous, les multithérapies sont hyper importante parce que ça permet de se reconnecter à plein de choses. L'image de son corps, de ce qu'il ressent, de ce que ça induit à l'intérieur et ça peut être extrêmement profond. Beaucoup de pathologies peuvent se développer sans qu'on les comprenne. Un repli sur soi-même, donc difficulté à s'exprimer. Beaucoup de personnes vont vers soit le sport ou la thérapie, l'art-thérapie, l'écriture, la parole, le chant. C'est vraiment une autre façon de s'exprimer et d'extérioriser la douleur qu'on a en soi. J'aimerais aussi rebondir sur ce que disait cette dame par rapport à l'accompagnement et à la prise en charge de l'écoute de la parole de victime.
Allez-y.
On a eu des périodes où effectivement l'accueil était, on va dire, quasi systématique, pas adapté en tout cas. Ça arrive encore, mais je voudrais quand même souligner tous les efforts qui sont faits par les professionnels de l'accueil, que ce soit les hommes ou les femmes. Il y a des hommes qui accueillent très très bien, mais il y a des femmes qui peuvent accueillir très très mal. Donc je voudrais qu'on fasse un équilibre là-dessus, parce que la conscience de la société est là. Les personnes qui accueillent les victimes de violences sexuelles se rendent compte de plus en plus de la difficulté, de cette difficulté spécifique de la violence sexuelle, mais aussi de l'importance que peut avoir la façon dont on accueille cette parole. Il peut y avoir encore des soucis, mais il y a quand même énormément d'efforts. Et les personnes qui souhaitent parler, il ne faut pas partir sur le fait qu'on va être mal accueilli. Je trouve que c'est important de le dire.
Solène parlait des femmes qui l'ont inspirée, en tout cas qui lui ont permis peut-être de se battre, hein, pour le coup, de pouvoir en parler. Vous, Marie-Josée, est-ce qu'il y a des femmes comme ça qui vous ont aussi inspiré, qui vous ont aidé de manière peut-être aussi indirecte?
Mais ce sont pas forcément des femmes très connues.
Ah oui, d'accord, très bien.
Ce sont des femmes que j'ai rencontrées dans mon parcours de vie. Moi qui n'osais pas faire beaucoup de choses de peur, il y avait plein de choses, hein, l'éducation, mon histoire. Et j'étais admirative du courage de certaines personnes que j'ai rencontrées. Et je me suis dit, j'aimerais bien être ça un jour. J'aimerais bien avoir cette force-là, ce courage-là. J'observe encore des femmes et je me dis, waouh, bravo. Elles ont du courage, alors je fais à ma mesure et je me dis que ce que je fais, j'aurais jamais cru pouvoir le faire un jour, compte tenu de mon parcours. Et déjà, je me dis que c'est un petit plus pour l'accompagnement des victimes. Et au moins, si je peux apporter un soutien, celui que j'aurais peut-être aimé avoir quand j'étais enfant, ouais. Et ben c'est déjà ça de gagné.
On va accueillir Dominique au 04 72 38 20 23. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF et on vous écoute.
Donc moi, je m'aperçois avec tout ça que je pensais en être guéri, en être sorti. En fin de compte, je me rends compte que là, ça remue pas mal, les choses remuent pas mal. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai téléphoné.
Ça vous remue de d'écouter l'émission, c'est ça ? Dominique?
Oui, parce que je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de failles et que je m'en suis sortie quand j'étais sur le terrain, etc. Et après, élever mes enfants, je m'en suis sortie. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il y a des conséquences sur le long terme, des conséquences dans les relations avec les autres, des conséquences dans les relations avec mes enfants, qui n'ont pas été vues ni traitées au moment. Et ce qui fait que ça perdure ça solutionne pas. Il y a des choses qui manquent beaucoup. Il y a une aide sur le moment, mais du coup, on est protégé, on est aidé sur le moment. Mais on est considéré, on a l'étiquette de à protéger, à aider, et même pour nos enfants, et que nos enfants, après, avec le temps, même les choses sont pas vraiment dites, et ça ressort quand même. Ce sont des blessures qui restent. Ça fait que la blessure, elle reste et elle est constante.
Donc, il faut aussi aider l'entourage, vous dites, Dominique.
Voilà. Et ouais. Je trouve que justement, dans ces moments de drame, d'emprise conjugale, d'emprise et de violence, on nous dit de prendre des médicaments, on nous dit de nous soigner, mais rien n'est fait pour l'autre, rien n'est fait pour le conjoint violent. Pour l'aider à comprendre son attitude, pour l'aider à se soigner lui, et d'être dans... Il n'y a rien n'est fait pour qu'il y ait une relation, parce qu'on nous dit d'aller voir des conseillers conjugaux, oui. Mais dans ces cas-là, l'homme ne veut pas, ou quand il y a des problèmes avec les enfants, on nous dit d'aller voir, de faire une thérapie familiale, mais le père ne veut pas, donc et ne le fait pas. Et on ne parle pas, même dans les thérapies familiales, ce n'est pas dit. On ne parle pas, les thérapeutes, les psychologues ou tout ça ne disent pas. Au niveau du placement des enfants, après tout ça, les enfants dans les... Comment ça s'appelle ? Le jugement pour enfants, pour savoir où les enfants vont être placés, on met les enfants avec le père. Donc ça, sans parler de la problématique. De l'emprise et tout ça, et donc les enfants sont sous emprise, et tout ça c'est pas vu, c'est pas entendu, c'est pas, rien n'est fait à ce niveau-là.
Dominique, permettez-moi de vous demander en quelle année c'était ce que vous avez vécu? Est-ce que c'était il y a longtemps?
Oui, c'est il y a longtemps. C'était dans les années 94.
Et avez-vous été à l'époque accompagné peut-être par une association, puisque c'est aussi
j'ai été contactée à SOS Femmes Et du coup, donc j'ai eu une écoute, là, mais j'ai pas eu de véritable soutien parce qu'en fin de compte, j'étais hors des clous. Est-ce que c'est parce que je réfléchissais trop? Est-ce que c'est, je sais pas. Mais je me suis pas sentie, j'ai pas été aidée vraiment. Et moi, j'ai voulu aider aussi dans le sens où, justement, on parlait avec d'autres. Et ça, j'ai été éliminée parce que c'était pas soi-disant mon rôle. Mmh. Alors qu'en fin de compte, je crois vraiment, comme ça a été dit tout à l'heure, l'importance de parler entre soi, entre nous, entre personnes ayant vécu la même chose, parce que on entend, alors que les autres qui n'ont pas vécu ce genre de choses ne peuvent pas entendre et ont des, enfin pas complètement, et ont des, il y a des préjugés ou il y a quelque chose qui n'est pas compris ou entendu ou su ou voilà, ça se passe au, je sais pas comment expliquer.
Mais si, vous l'expliquez très bien et on va pouvoir en parler avec notre invité. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu à l'antenne et d'avoir pris le temps comme ça de témoigner au 04 72 38 20 23. Marie-Josée, je me tourne vers vous puisque Dominique a dit beaucoup de choses très très intéressantes dans un contexte qui a peut-être évolué. C'est pour ça que je lui ai demandé l'année ou à peu près la période où ça s'était passé. C'était en 1994, il y a 28 ans quand même.
Oui,
Marie-Josée.
C'est quelque chose, quand je vous disais tout à l'heure, c'est un séisme et les proches aussi sont impactés. La violence sexuelle, souvent on s'est dit, voilà, la violence sexuelle, physique, paf, ça s'arrête là. On va donner des cachets, la personne va oublier et puis on passera à autre chose. Cette dame parle de l'accompagnement de ses enfants, de faire grandir ses enfants. Et pour beaucoup de victimes qu'on a accueillies au tout départ... Ça a été ça, en fait. Je ne vais pas bien, mais je suis responsable d'une famille, donc je vais tout faire pour que les choses se passent bien pour eux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai su tout faire correctement parce que moi, je n'allais pas bien. Donc, il y a un vrai travail aujourd'hui de cette prise de conscience où nous, victimes, on arrive et on dit « Écoutez-nous vraiment, il faut qu'on soigne le problème à la base parce que mettre des mouchoirs par-dessus nos problèmes fait... » qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent. C'est un séisme, une agression sexuelle. Mmh. C'est un séisme sur sa propre vie physique, psychique, intellectuelle, économique, mais sur tout l'environnement. C'est un tsunami intérieur, mais c'est un tsunami extérieur. C'est ça qu'il faut vraiment voir. Et il faut soigner le plus tôt possible. Donc cette dame a tout à fait raison. Mmh.
Et on va...
Comment on fait quand une victime vient en disant « j'ai été agressée » et jusqu'où on accompagne tous les proches, en fait. Il faut prendre
l'entourage.
La mesure de tout ce que... c'est pas que l'entourage, c'est de tout ce que ça impacte, professionnel, personnel, physique, psychique. Ça va très très loin. Et plus tôt on aura compris tout ça, plus tôt on prendra la mesure de l'impact, plus vite on prendra en charge la personne et cet environnement pour aller beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mmh.
Marie-Josée, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis, puisqu'on est un petit peu en retard. Dans un instant, on accueillera Michel au 04 72 38 20 23. Vous continuez bien sûr à témoigner dans cette émission par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Allez, encore de la musique sur RCF. On va écouter Oshi et même après Je t'aimerai, une chanson qui est sortie en 2021. Oshi qui est féministe et qui est très engagée sur cette cause.
La vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler. Je crois, je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai. chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon.
C'était Oshi sur RCF et même après je t'aimerai.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec notre invitée Marie-Josée Hève, vous êtes la présidente de l'association En Parler. On a encore beaucoup de choses à se dire jusqu'à 11h. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Michel nous a rejoint. Bonjour Michel.
Bonjour à vous et merci pour vos émissions. Je m'adresse à Marie-Josée. J'ai un peu une extinction de voix, excusez-moi.
Mais on vous entend quand même, ne vous inquiétez pas.
Je suis vraiment désolée en ce moment, parce que, en ce moment, depuis un certain temps, parce que en Vendée, je ne trouve pas de véritable écoute. Je veux dire de personnes formées à la mémoire traumatique. Hélas, je fais partie de ces femmes-là. Et donc, je m'adresse à elles pour savoir si je pourrais avoir un numéro de téléphone le plus proche. Parce que, je vais vous dire, à chaque fois, j'ai mis beaucoup d'espoir, j'ai mis toute mon énergie. À chaque fois, il faut répéter les mêmes choses, ça prend énormément, je m'y prépare un ou deux jours avant. Et quand je vois que la personne n'a encore pas été formée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su écouter, qu'elle n'a pas su me comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un quand on n'a pas été formé? Je ne crois pas, j'en suis sûre maintenant. Et malgré toutes mes démarches, voyez, j'en suis là et maintenant ça atteint aussi ma santé et je ne peux pas aller très loin. Donc, est-ce que Marie-Josée, vous pourriez me donner un numéro de téléphone pour ma région où je ne serais pas trop éloignée, peut-être, je n'en sais rien.
Merci beaucoup Michel pour ce témoignage. Marie-Josée Hève, est-ce que vous connaissez des associations peut-être nationales, mais tout comme la vôtre hein, d'ailleurs, l'association En Parler, puisque vous faites des actions un peu partout en France, mais est-ce qu'il y a peut-être une fédération d'associations ou un annuaire d'associations qui pourrait aider Michel, mais bien d'autres j'imagine?
Alors, il y a France Victimes hein, qui est un réseau national et qui à cartographier, en tout cas travaille avec énormément d'assos locales et c'est un point d'entrée pour avoir des infos locales. Vous avez les CDIFF aussi, centres d'information hein, qui là sont assez larges et qui sont représentés dans toutes les régions. L'association, malheureusement, on travaille sur du bénévolat et avec des bénévoles, on n'a pas de numéro et on n'a pas l'habitude de donner des numéros spécifiques. Je dirais à cette dame que si elle souhaite intégrer un groupe de parole de l'association, on a mis en place donc les visioconférences. Ce sont des groupes de parole en visioconférence qui vont être organisés de façon mensuelle. Il risque d'y en avoir même plusieurs compte tenu des demandes, puisqu'on a même des francophones de l'étranger qui participent à ces visios.
Ouais.
Donc l'adresse, c'est une adresse mail, on n'a pas de numéro de téléphone, visio@enparler.org. Ça permet d'obtenir les infos d'organisation et de modalités de participation à ces moments de parole spécifiques pour les victimes de violences sexuelles et pour les proches de victimes de violences sexuelles.
Oui.
C'est la grosse difficulté de trouver des espaces de parole. Il y a de plus en plus de personnes formées, mais c'est vrai que quand on est isolé et quand on s'est retrouvé confronté à plusieurs reprises comment expliquer, c'est compliqué de vouloir parler, d'offrir sa parole et sa confiance et de se rendre compte que il y a rien en face. Souvent, on se rend compte qu'une victime parle. Elle, en général, elle a parlé une fois, mais si ça s'est mal passé. En fait, elle ne parle plus souvent. De moins en moins, ça se produit parce qu'il y a de plus en plus d'espace de parole. Mais on se rend compte que, quand même, il y a des personnes qui ne parleront jamais de toute leur vie. Et c'est une vie de souffrance. Hein.
Geneviève nous a rejoint, dont je pense. Donc, Jaji, bonjour à vous, Geneviève.
Oui, bonjour. Et merci infiniment pour vos émissions et celle-ci tout particulièrement. Je vous écoute depuis 9h ce matin. J'ai eu beaucoup de difficultés à accepter de prendre la parole parce que c'est un sujet qui me touche encore en profondeur, très rapidement. Quand j'étais enfant, j'ai été victime d'attouchements répétés pendant une bonne dizaine d'années de la part de cousins. Je n'en ai jamais parlé à personne, ni même à ma propre mère qui maintenant n'est plus de ce monde. C'est resté complètement dans l'ombre et dans l'obscurité. J'ai eu un mari non violent physiquement, mais verbalement et psychologiquement. Et c'est pendant, j'ai fait une quinzaine d'années d'analyse, de thérapie analytique, et je n'ai pu parler d'ailleurs de toutes ces choses que même plusieurs années après le début de ma thérapie. C'était extrêmement, c'était tellement enfoui en moi et, comment dire, j'avais, comme beaucoup de personnes, hein, j'avais une sorte de honte finalement à parler de toutes ces choses. Quelque part, je me disais, finalement, c'était normal, c'est moi qui suis beaucoup trop sensible, qui réagis mal, etc. Alors qu'en réalité, après ces 15 ans d'analyse et puis des études quand même assez poussées en psychologie, beaucoup de lectures, hein, notamment les livres du docteur Catherine Guéguen, le livre noir des violences sexuelles du docteur Muriel Salmona, je prends complètement conscience que tout cela n'est absolument pas acceptable et laisse des traces gravissimes. J'ai oublié de dire que j'ai quand même développé il y a 12-13 ans de cela une très grave maladie auto-immune de la thyroïde. Je n'ai plus de thyroïde et j'ai quand même été j'ai été mutilée et quand même fragilisée par cette grave maladie. Et certains médecins m'ont bien laissé entendre qu'il y avait certainement un lien entre les violences subies dans l'enfance et la jeunesse et le déclenchement de cette maladie. Voilà.
Merci beaucoup Geneviève pour votre témoignage dans Je pense donc que j'agis et d'avoir eu là aussi le courage de nous appeler pour en parler et parler de ses souvenirs. Marie-Josée, c'est vrai que depuis le début de cette émission, vous dites, et à juste titre, il faut en parler, il faut que la parole se libère, mais ça peut être très délicat, difficile d'en parler, de trouver les mots, comme Geneviève nous le confiait sur ses souvenirs qui étaient peut-être enfouis, très sombres et qui n'arrivaient pas à sortir.
C'est super compliqué, hein. Je suis de ces personnes-là. Jamais je n'aurais cru arriver à en parler comme j'en parle aujourd'hui. Pour moi, l'espace noir de ma vie et j'ai tout fait pour que ça ne se sache pas, que ça ne se voit pas, malgré toutes les pathologies que je pouvais développer aussi. Je comprends toutes ces personnes. toutes ces histoires très très lourdes, très très sombres, qu'on garde pour soi et on essaie d'avancer avec une canne à gauche, une canne à droite. C'est super compliqué, mais il faut croire aussi, il faut espérer aussi. On a cité à plusieurs reprises des auteurs et des professionnels de santé. Ce sont aussi des personnes que j'ai beaucoup lues qui ont pointé des choses très très importantes sur le psychotrauma et sur les incidences que peuvent avoir les traumas, quels qu'ils soient, sur la vie de l'individu. Il faut se dire que quand on a conscience de certaines choses, on peut agir dessus. Moi, pendant des années, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas écouter, c'est pas moi, et moins j'y penserai, mieux j'arriverai à vivre ma vie. Mmh. En fait, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, je pose les choses, c'est-à-dire il m'arrive quelque chose, je me dis bah oui, il m'arrive ça, donc comment je peux agir ou comment je peux réagir. J'arrête de me mettre les œillères devant les yeux. Les choses ne font pas forcément plaisir, mais il faut du courage. Hein. Quelles que soient nos vies, il faut du courage. Et il faut regarder les choses en face et il faut essayer de trouver de l'aide où il y en a. Il y en a de plus en plus. Les assos, il y en a de plus en plus aussi qui sont là, qui accompagnent. Et c'est important.
Et c'est important de les présenter, de les mettre en avant aussi ce matin dans Je pense, donc j'agis. Geneviève nous parlait de cette forme de culpabilité qu'elle a ressentie en disant bah, « c'est peut-être de ma faute ce qu'il s'est passé ». Ce sentiment, il est courant, il est courant quand vous entendez, vous, des témoignages au sein de l'association?
Mais je dirais qu'il est presque systématique. Mmh. Il est courant, la culpabilité, et la culpabilité qu'on nous renvoie. Aussi, la société nous renvoie beaucoup, beaucoup de choses négatives. On n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on doit prouver qu'on n'a pas été agressé, par exemple. C'est le monde à l'envers, quand même. Mmh. Bon, c'est la loi, c'est la loi. Mais un enfant qui est agressé, j'ai du mal à croire qu'un enfant soit suffisamment intelligent ou en tout cas sensé pour aller provoquer un homme quel qu'il soit. Quand on ne connaît pas quelque chose, on n'y va pas ou on ne s'en sert pas. Mmh. La première fois qu'il m'est arrivé quelque chose ou que j'ai été agressée, pour mettre les mots agressée sexuellement, je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait confiance en l'adulte qu'il y avait en face de moi. C'est ça aussi la difficulté. Il faut qu'on parle de ces femmes battues, mais il faut qu'on parle de l'emprise psychologique. Il faut qu'on parle de la violence et de ce que ça a comme incidence, une agression sexuelle, quelle qu'elle soit, sur l'individu. Je vous parlais tout à l'heure de l'exposition que portais-tu ce jour-là. Dans cette exposition, il y a une robe de soirée, il y a une tenue militaire, on n'a pas l'arme parce que on n'a pas mis d'arme, on n'en a pas. Il y a des maillots de bain, il y a des tenues de sport. Quelle que soit la personne, la réaction de la victime est différente, mais l'agresseur agresse. Et c'est ça qu'il faut retenir. On est objet de quelqu'un. Mmh. On n'est pas le sujet, on est l'objet de quelqu'un. Il faut remettre les choses à l'endroit. Et c'est ça, aujourd'hui, la difficulté. C'est qu'il faut mettre les choses, on nous renvoie la culpabilité, mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû... Pourquoi t'étais là? Pourquoi t'étais habillée? Pourquoi t'avais bu? Non, c'est pas normal, en fait. Mmh. La personne responsable, c'est l'agresseur. Il faut se dire, et il faut que la victime ait ça dans l'esprit le plus possible, c'est-à-dire, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, j'ai été victime.
On va accueillir Marie-Catherine, pardon. Bonjour Marie-Catherine.
Bonjour. Alors voilà, je voulais dire que j'avais été aidée par le 3919. Il me semble que vous n'en avez pas parlé dans votre émission, mais c'est le 3919 que j'ai appelé en août 2017. Et j'ai donc tout de suite, je suis partie, ils m'ont dit de partir. Mes enfants sont venus chercher, j'étais conjointe collaboratrice. Deux heures après, je pense que mon mari était là et je n'aurais jamais pu partir sinon. C'est l'association Le Relais ensuite qui m'a aidée et qui, pendant plusieurs années, jusqu'en 2019-20, pendant trois ans, j'ai parlé avec trois psychologues dans cette association et ça m'a énormément aidée. La culpabilité, elle est là, c'est sûr. Et mes deux maris, j'ai été mariée avec deux maris qui sont décédés tous les deux. qui étaient tous les deux violents et alcooliques. Et je voudrais dire aussi qu'il faudrait informer les enfants dès le plus jeune âge, dire que c'est un fléau social. Un fléau social parce que les enfants dans les familles, ensuite, on a tendance à nier ce problème, à dire non, il n'était pas alcoolique, il n'était pas violent, ton grand-père. C'est ce qui s'est passé le jour de l'enterrement, là, au mois d'octobre, où j'ai gardé ma petite fille, et qui ne savait pas, ma petite fille de 5 ans, qui ne savait pas que son grand-père était alcoolique et violent. Elle m'a posé des questions ce jour-là, j'étais toute seule avec elle. Et mes enfants n'avaient pas voulu que j'aille à l'enterrement de leur père, qui était mon premier mari. Ça, c'était dans les années 77 à 80 et des bananes. Et je voulais dire qu'il faut informer les enfants dès le plus jeune âge. C'est un fléau social, cette violence conjugale.
Merci.
Ça va se répercuter encore, c'est sûr, c'est certain.
Et c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est ce qu'on fait ce matin sur RCF. Merci beaucoup, Marie-Catherine, d'avoir aussi rappelé ce numéro, le 3919, qui est un numéro national de référence, Marie-Josée Hay, pour les femmes victimes de violences.
Oui, tout à fait. C'est France Info Femmes, enfin, Violence Femmes Info. C'est un numéro ouvert et qui redirige beaucoup. Je vais rebondir sur l'intervention de la dame. Effectivement, il y a un gros travail d'information, de formation, d'éducation. Il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Le ministère a mis en place un vademécum des violences intrafamiliales pour l'éducation nationale. Au sein de l'association, on est en train de réfléchir justement à comment intervenir dans les classes, quelles qu'elles soient, pour sensibiliser au consentement, à ce que l'individu, l'autre, et ce qui est possible de faire pour éviter toutes ces violences. C'est vrai, c'est un gros problème d'éducation de toute façon. Ça prendra du temps, mais c'est important de rappeler les choses et de les dire quand on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement. Les enseignants sont aussi de plus en plus au fait par rapport à cette problématique. Mais il y a le milieu familial et on se rend compte qu'on fonctionne tous depuis, il y a une dame qui disait depuis des millénaires, mais on sort tous d'un milieu, d'un environnement avec un fonctionnement spécifique. On a beaucoup à faire et on a beaucoup à apprendre des autres.
Louise qui nous a envoyé un mail et qui nous dit « Je suis médecin généraliste avec une histoire personnelle de violence psychologique familiale, donc très sensible à l'écoute des patients sur ce sujet. Mais je voudrais témoigner de la nécessité d'écouter, mais à la fois la difficulté pour nous, médecins généralistes, car nous n'avons pas les moyens pour le faire correctement. » Marie-Catherine, vous avez aussi des médecins qui aimeraient vous aider dans l'association.
Alors nous, on travaille en relation avec les professionnels de santé. On a signé un partenariat là sur Bordeaux avec le centre régional de psychotrauma. C'est ce que je vous disais en début d'émission, c'est-à-dire que on est là pour leur dire qu'une victime de violence sexuelle, elle fonctionne de telle et telle façon et que leur façon d'accueillir la parole est peut-être pas forcément la bonne parce que pour beaucoup d'entre eux, en fait, oui, ce n'est pas un vécu. Ils ont une formation médicale hyper pointue. Mais peut-être qu'il leur manque un certain nombre d'informations. Donc on travaille en collaboration là-dessus, on travaille ensemble, on intervient dans les formations, dans des discussions, dans des colloques. Je suis là sur Poitiers ces jours-ci justement pour ça aussi, rencontrer des professionnels de santé, discuter. Il y a une volonté d'un certain nombre de professionnels, mais une difficulté aussi quand on pense qu'un généraliste n'a un temps que réduit pour accueillir une personne.
Et prendre le temps d'écouter, c'est pas
un quart d'heure. Ouais. Hein. Voilà, c'est ça.
Marie-Josée,
on peut pas poser une histoire comme ça en un quart d'heure.
On arrive presque à la fin de cette émission et traditionnellement, dans Je pense donc j'agis, c'est jeudi photo hein, aujourd'hui puisqu'on est jeudi. Et Stéphanie Gallet, notre chroniqueuse, va décrypter pour nous une photo choisie par le CCFD Terre Solidaire. Rebonjour Stéphanie Gallet.
Rebonjour Melchior, bonjour à tous.
Ah oui, on vous retrouve pour cette opération Jeudi Photo. Alors aujourd'hui, c'est un portrait de femme que le CCFD a décidé de mettre en avant.
Oui, Melchior, mais avant que je vous parle de cette femme qui est photographiée, regardons un peu la photo. C'est un format paysage et je vous avoue que le cadrage est un peu étrange. Les verticales de la scène ne sont pas parallèles au bord de l'image. Le photographe a dû légèrement incliner son appareil. Résultat, la femme et le piquet à côté duquel elle se tient debout apparaissent comme deux travers, un peu penchés vers la gauche. La photo, sinon, elle est prise en contre-plongée. Le photographe devait être accroupi pour avoir dans son viseur et notre jeune femme et ce qu'il y a au-dessus d'elle, une grande bâche bleu-vert, sorte de serre de fortune pour protéger des oiseaux et maintenir l'humidité. La jeune femme, elle semble jeune, elle est habillée en jean et en sweat noir et elle a sur la tête un drôle de bonnet blanc avec deux gros pompons qui pendent de chaque côté de son visage. Elle tient dans ses mains un pot avec dedans une plante verte et on imagine qu'elle est en train de la nettoyer. À ses pieds, un tapis de verdure avec quelques taches claires, des fleurs pâles et des étiquettes jaunes qui contrastent avec la végétation. On a du mal à distinguer ce qui pousse sous cette serre, mais tout cela semble très exubérant.
Alors Stéphanie, qui est cette jeune femme et où sommes-nous d'ailleurs ?
Eh bien, nous sommes à Ermelo, une petite ville au nord-est de l'Afrique du Sud. Et devant nous se tient Nelly. Elle est agricultrice et ce que ne nous dit pas la photo, c'est qu'elle cultive une grande variété de plantes, mais aussi de légumes, des épinards, des choux, des courges ou encore des tomates. Ce que ne nous dit pas cette photo non plus, c'est qu'avant d'être agricultrice, Nelly est avant tout une activiste. Après avoir suivi une formation en agroécologie auprès d'un partenaire du CCFD Terres Solidaires, nous en reparlerons, elle a créé ce jardin partagé pour permettre aux femmes précaires de son village de s'approvisionner gratuitement en légumes et ainsi nourrir leur famille. Car sous cette serre de fortune, les nombreuses teintes de vert entrent en résistance avec le noir du charbon qui empoisonne la vie des communautés locales.
Alors, faut nous expliquer cette affaire de charbon car on le voit pas sur la photo.
Eh bien non, dans cette province d'Afrique du Sud, les nombreuses mines de charbon tournent à plein régime au détriment de l'environnement, de la santé et de la souveraineté alimentaire des populations. Avec ces mines, la plupart du temps vétustes, cette région était fin 2018 l'une des plus polluées au monde. Les riverains en paient le prix fort, la poussière toxique flotte dans les airs, contamine l'eau, souille les champs et les cultures et s'imprègne jusque dans les habitations.
Et les femmes sont en première ligne, j'imagine, pour que le vert l'emporte sur le noir.
Les femmes sont les premières touchées par ce fléau car c'est sur leurs épaules que repose la charge de cultiver les champs et d'effectuer les tâches ménagères. Elles sont contraintes de marcher toujours plus loin à la recherche d'eau potable et de nourriture pour subvenir aux besoins de leur famille. Alors c'est le programme Women qui a formé Nelly, présent dans 8 pays d'Afrique australe. Women dénonce les impacts des activités minières, notamment sur la vie des femmes. Women est très active pour que la voix de ces femmes vulnérables et en colère soit entendue par le secteur minier. Cette formation Women a permis à Nelly de résister et d'être une femme qui se tient debout face au monde de la mine, même si sur la photo, elle est légèrement penchée.
Et cette photo, elle est signée Laurent Asgui et vous pouvez la retrouver sur rcf.fr à la page de la rubrique Jeudi Photo. Vous pouvez également en découvrir toutes ces informations sur le partenaire Women, partenaire du CCFD Terres Solidaires. Merci beaucoup Stéphanie Gallet et merci à vous Marie-Josée Hay d'avoir participé à cette émission à quelques jours de cette marche organisée par le collectif Nous Toutes. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association En Parler, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site associationenparler.com. Et puis je rappelle ce numéro, le 3919, un numéro de référence pour les femmes victimes de violences. Merci à l'équipe de Poitiers, de Paris, de Hugo, de Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain pour finir la semaine avec le Presse Club en compagnie d'Étienne Pépin et l'émission de jardinage Prenez-en la graine, ce sera à 10h. Bonne journée à toutes et à tous, à demain.